Luc chapitre 20, et nous allons lire à partir du verset 27. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve, et il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. » Quelques-uns des scribes prenant la parole dirent, « Oh, maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus lui poser aucune question. Comme j'ai dit, Jésus enseigne dans le temple, dans notre situation ici, et il est accosté par différentes personnes qui voulaient le planter avec des questions pièges. D'abord, le Sanhédrin ensemble s'approche puis dit, « Hey, par quelle autorité tu fais ça? » Et Jésus leur rappelle que l'autorité qu'il a, le Sanhédrin le perd, parce qu'ils n'ont pas été fidèles avec l'autorité qu'il avait. Après ça, des Hérodiens viennent, des gens qui aimaient Hérode, qui aimaient que le soutien social, puis essayent de le planter avec sa question, est-ce qu'on doit payer le tribut à César? Et Jésus répond à eux, oui, tu dois payer à César, tu dois donner aussi à Dieu ce qui appartient à Dieu. Un autre groupe ce matin que l'on est, il s'appelle des Sadducéens. Je peux vous penser qu'ils étaient tristes, eux autres. Hein? Ils n'ont pas la joie de la résurrection. Puis le mot, il dit « sad ». Mais c'est pas ça. C'est pas l'origine du mot « sad », ça veut dire « triste » en anglais. Mais je suis pas sûr si c'est l'origine. Mais c'est des gens qui ne devaient pas avoir grand joie parce qu'ils n'avaient aucune espérance future. Ils étaient de cette sorte-là dans Corinthiens. « Mangeons et buvons parce que demain, on va mourir. Prenons tout ce qui passe parce que c'est fini demain. » Et c'est ces Sadducéens-là qui rencontrent Jésus. Ils étaient en majorité des sacrificateurs. Ils faisaient la majorité du Sanhédrin, du groupe qui dirigeait les affaires religieuses d'Israël. Ils étaient en majorité des Sadducéens. Et comme Sadducéens et comme membres honoraires du Sanhédrin, ils faisaient partie de l'aristocratie de la ville, de la bourgeoisie de la ville. Et ils s'associaient souvent, bien entendu, avec le pouvoir romain pour garder le poste. Et ils voulaient sauvegarder le temple et la nation juive. Mais les pharisiens, eux, étaient des gens terre à terre, avec une spiritualité qui était réelle, qui était très légaliste, mais qui s'attachait à Dieu beaucoup plus que les Sadducéens. Parce que les Sadducéens, toute la tradition orale, ils la niaient. Ils niaient la résurrection, ils niaient l'existence des anges, ils niaient l'existence des esprits. Tout ce qui conservait comme vérité était ce qu'ils trouvaient dans le Pentateuque, dans les 5 livres de Moïse. C'est pour ça que Jésus va argumenter à la fin avec les écrits de Moïse, justement, parce qu'il les accepte comme autoritaires. C'est quoi leur question piège? Bien, les Sadducéens, ils prennent le texte de Moïse dans Deutéronome, chapitre 5. Ils ne croient pas à la résurrection, alors ils inventent une histoire qui est basée sur la loi du Lévirat. Et ils l'ont bien expliqué, hein, cette loi-là. Si dans une famille, un homme prend une femme, puis il meurt sans enfant, le frère devrait prendre la veuve et susciter une postérité. C'était la manière que Dieu a donnée au peuple d'Israël pour conserver la lignée paternelle. Les enfants d'Israël n'avaient pas le droit de vendre leur maison puis de leur terre à n'importe qui. Ça devait toujours rester à l'intérieur du patrimoine familial, à l'intérieur de la famille. Alors, c'était important que le patrimoine se transmette de génération en génération, et la loi du Lévirat faisait en sorte que le patrimoine restait à l'intérieur de la famille. Et aussi, c'était la loi qui protégeait les veuves. Une personne qui mourait, qui n'avait pas d'enfant, une veuve qui mourait, où est-ce qu'elle pouvait aller? Elle n'avait plus rien. Alors, la loi du Lévirat, où le frère prenait soin de la veuve en la mariant, suscitant une postérité, bien, c'était une manière de prendre soin des veuves. Une femme, comme il mentionne, ils prennent cette bonne notion-là. Puis, dit, voyons, une femme qui a eu des responsabilités conjugales avec 7 hommes, qu'est-ce qu'elle va faire au ciel? Il va y avoir 7 hommes qui vont courir après elle au ciel. Ben, voyons donc, on est dit, il ne faut pas passer droite. Puis l'inverse, ben, elle va-tu choisir le meilleur qu'elle avait des 7? Puis là, laisser les 6 jaloux pendant toute l'éternité. Ah, ça, c'est celui que j'ai aimé le plus, puis c'est avec lui que je me tiens dans ma petite demeure pour moi, pour l'éternité. Les 6 autres vont être fâchés. Ils vont dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ni d'un bord ni de l'autre, cette affaire de relation conjugale au ciel. Alors, on essayait bien de l'attraper. Mais Jésus dit, que chose que vous ne comprenez pas. Comment ça fonctionne dans ce siècle-ci? C'est différent de comment ça va fonctionner dans le siècle à venir. Et d'abord, il réaffirme qu'on n'a pas à rire de la résurrection parce que c'est une réalité. Il affirme qu'il y a les enfants de ce siècle, puis il y a aussi les enfants de la résurrection, du siècle à venir. De l'autre côté de la mort, il y a encore des enfants, il y a encore la vie. Et évidemment, Jésus, quand il est arrivé sur la terre, puis qu'il a enseigné pendant ses 3 ans, il a enseigné systématiquement sur la résurrection dans le Nouveau Testament. Il disait, par exemple, dans Luc chapitre 14, si tu invites des amis, si tu invites à manger que des gens, ben invite les extrapiés, invite les gens qui ne peuvent pas te leur porter, parce que dans la résurrection des justes, ça va t'être remis. Parce que de l'autre côté, il y aura quelque chose. Il a fait des paraboles de Lazare, le mauvais riche. Il mentionnait qu'est-ce qui arrivait dans le sein d'Abraham, qu'est-ce qui arrivait dans l'autre côté. Il a même affirmé, en ressuscitant Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. » Lui-même s'appelait la résurrection. Alors, rejeter la notion de résurrection pour les Sadducéens, c'était planter Jésus en même temps, qui s'affirmait être lui-même la résurrection. Plus tard, Paul, qui était lui pharisien et qui partageait son témoignage dans Actes chapitre 24, verset 14, il disait, « Je sers le Dieu de mes pères, ayant en Dieu cette espérance, comme mes pères l'avaient eux-mêmes, qu'il y a une résurrection des justes et des injustes. » Bien entendu, quand il a dit ça dans le Sanhédrin, ça a fait la chicane, parce que les Sadducéens, qui étaient en majorité, ils ne croyaient pas, puis les pharisiens, qui étaient en minorité, ils le croyaient. Fait que là, Paul, il s'est servi de cette affirmation-là historique pour éviter plus de problèmes avec le Sanhédrin. Mais depuis la résurrection de Jésus, la notion de résurrection, elle est une doctrine essentielle au salut. Ça veut dire que si je ne crois pas à la résurrection de Jésus-Christ, je ne peux pas être sauvé. 1 Corinthiens chapitre 15, Paul y dit, « Voici l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, puis je vous ai annoncé que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qui était enseveli puis qui était ressuscité. » Le 3e jour selon les Écritures. C'est une doctrine fondamentale du christianisme, la résurrection. La résurrection était aussi enseignée dans l'Ancien Testament. Avec les livres de Moïse, c'était peut-être moins clair, mais dans le restant de l'Ancien Testament, c'était de plus en plus clair. Daniel, par exemple, le prophète Daniel, dans chapitre 12, verset 2, il dit clairement, « Ceux qui dorment dans la poussière de la terre, ça c'est les morts, ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'était évident dans l'Ancien Testament, la notion était enseignée, la notion de la résurrection. Il fallait nier le restant des Écritures pour ne pas croire à la résurrection comme les Sadducéens le faisaient. Mais Jésus, il réaffirme la résurrection, elle a lieu, mais il dit, dans la résurrection, la notion de mariage va être différente dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Pourquoi les gens se marient aujourd'hui? Hier, ils se mariaient. Pourquoi Dieu a donné le mariage? La Bible, elle enseigne que Dieu a donné le mariage pour deux raisons. On était ici hier après-midi, puis je disais, Dieu a créé l'homme, puis il a dit, « Oh non, il manque quelque chose. Vive les dames. » Il a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, » c'est la première fois qu'il était désappointé, que Dieu t'a désappointé. Il a vu l'homme, puis il a dit, « Oh, il manque quelque chose. » Avant ça, tout était beau, tout était très beau, mais quand il a vu l'homme, il a dit, « Il manque quelque chose. » Et il lui manque une aide semblable. Et il a créé la femme pour d'abord la compagnie. Et ensuite, il a dit, « Hey boy, il y a toute la terre à parcourir. Reproduisez-vous, remplissez la terre, dominez sur eux. » Deux raisons pour le mariage. La compagnie et la procréation. C'est pour ça qu'on a le mariage. Je vois des adolescents qui arrivent à la vie d'adulte, puis ils ont tellement soif de compagnie. Ils veulent se marier? Oh, de moins en moins, mais c'est ça qu'ils ont besoin. Le mari, la compagnie, la procréation, ils sont là, puis ils espèrent ça. Ils ont ça. Et qu'est-ce que Dieu a pourvu pour leurs besoins, pour leurs bons besoins, pour leur épanouissement? Le mariage. Et quand ils entrent dans cette relation-là, ils entrent dans le bon plan de Dieu et ils peuvent trouver bonheur et épanouissement. Le problème, c'est que souvent, on prend les bons désirs que Dieu a placés dans nos vies, puis on s'en sert tout croche. Puis là, ça va mal. Ça, ce n'était pas le sujet du message. Mais pourquoi le mariage? La compagnie et la procréation. Alors, au ciel, si la procréation continuait tout le temps, puis que tous les vivants ressuscitent, puis que ça continue à peupler cette affaire-là, ça n'arrêtera plus. Alors, au ciel, la mort ne sera plus. Et puisque la mort ne sera plus, il n'y aura pas besoin de reproduire la vie. Par conséquent, il n'y aura pas besoin de procréation pour remplir le ciel. Le nombre de personnes, comme celui des anges, ne changera plus. Plus de procréation. Ceux qui vivront au ciel vont être immortels, comme les anges. Ils vont être fils de Dieu. Le Dieu Seigneur des Seigneurs qui seul possède l'immortalité. Ils vont être fils de la résurrection pour ne plus jamais mourir, parce qu'ils vont partager une nature immortelle comme Dieu. Alors, au ciel, j'ai plus besoin de la procréation comme dans le mariage. Et au ciel, la compagnie la plus essentielle. J'aime mon épouse, puis j'aime sa compagnie. Mais au ciel, il va y avoir quelque chose de plus merveilleux pour elle aussi. Hein? Elle va avoir une compagnie bien meilleure que la mienne au ciel. Elle va avoir le Seigneur Jésus comme compagnie. Même comme époux, la Bible dit. Au ciel, la compagnie essentielle des croyants sera avec Dieu. Et c'est ça l'essence du ciel, de partager la gloire de Dieu, de partager la présence de Dieu pour l'éternité. L'objectif de Dieu depuis la création du monde, pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Il nous a créés pour lui. Il nous a créés pour qu'on ait une relation avec lui, pour qu'on ait une communion avec lui. Il nous a créés à son image, parce que l'homme est le seul être sur la terre est capable de connecter intimement avec Dieu. Les chiens ne le font pas. Les arbres ne le font pas. Mais les humains peuvent. Ils sont créés à son image. Et pour Dieu, il voudrait entretenir une communion éternelle, utiliser toute sa gloire, toute sa puissance, toute sa bonté pour me faire du bien. Et il m'invite à communier avec lui depuis le début, depuis Adam et Ève. Mais dans cette invitation de Dieu, elle n'est pas tordue, elle n'est pas forcée. Il m'invite. Et comme tout le monde que vous invitez à manger ou à un barbecue ou visiter, tu dis, voudrais-tu venir manger avec nous autres ce soir? Et quand vous posez la question, il y a deux réponses possibles. Lesquelles? Oui puis non. Et quand Dieu dit, je t'invite à partager l'éternité avec toi, il t'aime assez, mais il te rend responsable et honnête moral de dire oui ou non. Et Adam et Ève ont choisi de dire à un moment donné non. Et ça l'a brisé. Ils ont été séparés, même dans le jardin d'Éden, loin de la face de Dieu, le jardin était fermé. Et l'homme et Dieu ont une grande séparation l'un envers l'autre. Jusqu'à temps que Dieu dise, j'aime l'humanité, je vais envoyer celui que j'ai, mon cher, le plus cher, mon fils bien-aimé, et lui, je vais susciter de la possibilité de rencontrer Dieu à nouveau. Et je vais même payer la dette de leur péché, prendre sur ses épaules sa condamnation, pour les inviter à nouveau à communier avec moi, à partager le ciel avec moi. Et ça, c'est la raison pourquoi Jésus est venu. Et encore une fois, Jésus, il se place devant la foule, et que je l'aime donc ce verset-là. Et qu'est-ce qu'il me dit? Viens à moi. Venez à moi. Il invite à la communion parce que c'était le désir, l'objectif de Dieu depuis la création. Il cherche une communion avec nous qui est basée sur la confiance, qui est basée sur la foi. Le péché a amené une séparation. La rédemption a réparé la brèche. Et le ciel va restaurer cette communion parfaite. Alors le mariage terrestre est un symbole limité d'une réalité céleste encore plus merveilleuse. Au ciel, il y en aura encore des relations interpersonnelles. Mais ce ne sera pas des relations dans le mariage. La communion la plus forte, la plus intense, va être avec Dieu. Paul disait aux Thessaloniciens, ne vous attristez pas outre mesure pour les croyants qui sont décédés, parce qu'un jour le Seigneur va revenir du ciel, puis les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Vous allez les revoir, les frères et les sœurs. Consolez-vous par ces paroles, il dit dans Thessaloniciens 4. Mais le cœur de la relation au ciel, ça va être la communion avec Dieu. C'est ça la relation dominante. La relation entre l'Église et Jésus, c'est ça qui va marquer la relation prédominante de l'époux avec son épouse qui va être consommée dans l'éternité et on va aller aux noces bientôt. La Bible appelle ça les noces de l'agneau. Et ça va être la relation intime, prédominante, éternelle, plutôt que la relation conjugale terrestre. Alors dans le ciel, on ne verra plus la relation de mariage que nous expérimentons ici-bas sur la terre. Alors nos amis qui disaient « De qui va être la femme? » Ben Dieu répond « Ceux qui sont dignes de la résurrection, ça ne marchera pas pareil. » La compagnie essentielle va être avec Dieu. La procréation sera inutile. Il n'y en aura plus. Parce que le ciel va être caractérisé par la communion avec le Dieu vivant. Et Jésus répond, il ne fait pas juste dire le ciel, mais il répond à leurs amis en disant, « Regardez bien dans les Écritures, Dieu est le Dieu vivant. Il y a une résurrection. Parce que Dieu entretient une relation éternelle avec tous ceux qui ont placé sa foi en lui. » Et quand Moïse a donné la loi, quand Dieu a rencontré Moïse, vous savez, dans le buisson ardent, et Moïse disait, mais qui tu es? Quand je vais aller voir ton peuple, qui c'est que je vais dire que tu es? Il dit, je suis celui qui suis. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'était des contemporains de Moïse, ça. Moïse les connaissait, c'était trois de ses chums. D'où ce qui venait Abraham, Isaac, Jacob? Moïse, 1500. Abraham, 2000 ans avant Jésus-Christ. Il y a 500 ans de différence. Est-ce que Dieu dit, j'étais le Dieu d'Abraham quand Abraham était vivant? J'étais le Dieu d'Isaac quand Isaac était sur la terre? J'étais le Dieu de Jacob quand Jacob a marché ici-bas? C'est ça qu'il dit? Il dit non, je suis éternel. Je suis vivant et j'ai une communion avec des vivants. J'ai encore la communion avec Abraham. Je suis Dieu d'Abraham aujourd'hui, 500 ans plus tard. Je suis Dieu d'Isaac. Je suis Dieu de Jacob. Souvenez Jésus quand il va sur la montagne, sur la transfiguration. Il rencontre qui? Moïse? Élie? Dieu n'est pas Dieu des morts. Jésus affirme aux Sadducéens que de l'autre côté de la mort, oui, il y a une séparation, mais de l'autre côté de la mort, il y a encore la vie. Pour Dieu, il nous dit, tous sont vivants. Il y a la vie après la mort. Et Jésus est le Dieu vivant qui a une relation avec les vivants. Avec ou sans corps terrestre, les humains possèdent une âme qui est éternelle et qui est vivante pour l'éternité. Et cette âme que vous avez, qui est vivante pour l'éternité, elle va être soit vivante pour l'éternité avec Dieu, ou soit vivante pour l'éternité sans Dieu. Vivante avec Dieu, on appelle ça la vie éternelle. Séparée de Dieu, on appelle ça la mort éternelle. Et Jésus a été très clair là-dessus. Regardez, s'il vous plaît, Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 5, les versets 28 et 29. Jean 5, 28, 29. Jésus disait, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront aussi, mais pour le jugement. »